vous sentez sacrément bon en plus. Je crois que je vais vous adopter.
Monsieur, vous êtes à l'antenne.
Oh, désolé, j'étais en train de choisir des abricots.
Ah, je comprends. C'est vrai qu'ils font envie nos délicieux abricots à 2,89€ le kilo, du 14 au 18 mai chez Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre A, origine Espagne, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
On vous souhaite la bienvenue. Dans un instant, on vous parle de la responsabilité sociale des entreprises. Il est 19h.
Parlons vrai.
Et le journal tout de suite.
Bonsoir à tous. 4 morts suite aux 2 nuits d'émeutes qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie. Le gendarme qui avait été grièvement blessé par balle à Nouméa cette nuit est lui aussi décédé il y a quelques heures. Originaire de Melun, il avait 22 ans. Sur place, les autorités parlent d'une situation insurrectionnelle. Le gouvernement va décréter l'état d'urgence. 500 policiers et gendarmes sont envoyés en renfort sur l'archipel du Pacifique. Rien ne pourra jamais justifier la violence, a déclaré Gabriel Attal sur le réseau social X. L'actualité aussi marquée par la colère et la tristesse des agents pénitentiaires après l'attaque hier d'un convoi dans l'Eure. Un commando armé a fait 2 morts. Le pronostic vital d'un des agents blessés n'est plus engagé ce soir. Mohamed Amra fait l'objet d'une notice rouge émise par Interpol. À travers tout le pays, plusieurs établissements pénitentiaires sont bloqués depuis ce matin. Les syndicats ont été reçus cet après-midi par Éric Dupond-Moretti. Ils appellent à poursuivre les blocages demain. La Slovaquie sous le choc. Robert Fico est entre la vie et la mort. Le premier ministre slovaque a été pris pour cible en pleine rue. L'assaillant a ouvert le feu à plusieurs reprises sur le membre du gouvernement. Il a été interpellé par les forces de l'ordre. Les condamnations politiques sont unanimes. La présidente de la Slovaquie, Zuzana Kaputova, qualifie cette agression d'attaque contre la démocratie. Robert Fico, pourtant un opposant politique et pro-russe. Autre attaque à Paris cette fois. Une personne a été tuée par balle en plein milieu de l'après-midi. Les échanges de tirs ont eu lieu dans le 20e arrondissement. Un individu a fait feu à plusieurs reprises sur un homme, le touchant mortellement. Le suspect a pris la fuite à scooter. Enfin du foot et séance de rattrapage ce soir en Ligue 1. À 21h, le PSG joue à Nice avec un énorme enjeu pour les Niçois déjà assurés de jouer au moins la Ligue Europa, mais qui peuvent encore rêver de la Ligue des Champions. L'autre affiche oppose Reims à Marseille, l'OM qui reste aussi dans la course pour une qualification européenne. 2 matchs retard de la 32e journée. Voilà, très bonne soirée à tous.
Merci Thomas.
La météo Sud Radio.
Bonsoir Rémi André, comment ça va?
Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde.
Avec une journée qui va ressembler à celle d'aujourd'hui.
Un petit peu, oui, effectivement, avec tout d'abord le matin, pas mal de pluie ou d'averses sur la façade est du pays, depuis les Hauts-de-France, le Grand Est, jusque vers la Provence, sur une bande qui ira depuis la Normandie jusqu'au Languedoc, là, le temps sera plutôt calme, avec quelques éclaircies, mais déjà, depuis la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine, sur le littoral, nous aurons droit, donc, à des averses, voire des orages, et dans l'après-midi, ben, tout cela va se généraliser, peu de régions vont échapper à ce temps très instable, avec le risque d'averses, voire d'orages. Nous aurons un temps un petit peu plus sec malgré les nuages sur les bords de la Méditerranée et donc les températures, elles vont évoluer entre 17 et 18 degrés de Lille jusqu'à Paris, 17 à 18 degrés également entre Bordeaux et Toulouse jusqu'à 21 degrés vers la Méditerranée.
Merci beaucoup Rémi André.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables.
On est ravis de vous retrouver, en tout cas comme tous les mercredis, les vraies voix responsables avec Philippe David, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Et on va vous parler de cette responsabilité sociétale des entreprises. Au sommaire de cette émission, l'éthique dans tout ça, c'est une vraie question. La RSE pèserait dans la balance chez 3/4 des salariés français quand ils recherchent une entreprise où travailler, Philippe.
Oui, RSE comme responsabilité sociétale des entreprises. La notion est montée en puissance ces dernières années. Produire de la valeur, oui, mais en faisant attention aux conséquences sur l'environnement ou sur les travailleurs à l'autre bout du monde.
Et puis, question d'image devenue vitale pour les entreprises. Démarche sincère ou argument publicitaire, en tout cas, ou un petit peu des deux, sans doute. En tout cas, on va en parler dans quelques instants avec nos invités. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix responsables.
Les vraies voix Sud Radio.
Et ils sont là. Aurélie Giraud, qui est avec nous, experte en RSE, fondatrice de Mokoa. Mekoa, excusez-moi. Bonjour, merci d'être avec nous. Émilie Auvray est avec nous, Fortine, entrepreneur et fondatrice fondateur de l'appartement français. Isabelle
Bonsoir.
Garnier est
Bonsoir.
Avec nous, avocate au barreau de Marseille. Et puis Arnaud Clément, directeur Bonsoir. De RSE chez Adistal. Enfin, c'est plus ça maintenant.
C'est le groupe Inhérent.
C'est le groupe
Adistal est une des entités.
Inhérent. Alors, ce qui est important déjà de comprendre pour ceux qui nous écoutent, que veut dire le mot responsabilité sociétale des entreprises ? De quoi parle-t-on quand on donne cet acronyme ?
Eh bien, on parle en fait de tout ce qui concerne l'entreprise, que ce soit son organisation interne, mais aussi toutes ses influences vers l'extérieur et toutes les influences que l'extérieur a sur elle également. Donc, quand on parle de responsabilité sociétale des entreprises, on implique la gouvernance de l'entreprise, le social bien évidemment, l'environnemental, mais aussi toutes les relations business qu'il peut y avoir avec les clients, les fournisseurs et également les territoires.
Est-ce que ça veut dire que ça s'adresse à toutes les strates d'une entreprise, que ce soit une TPE, ETI, enfin à toutes les entreprises ?
Ça s'adresse à tout le monde.
Oui.
Ça s'adresse à tout le monde parce que l'économie, c'est une chaîne de valeur et que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont impliquées les unes avec les autres. Et qu'à partir du moment où on décide ou qu'on est contraint par la réglementation d'avoir une politique RSE, on est obligé d'embarquer ces parties prenantes. Et ces parties prenantes, c'est l'ensemble de l'économie.
C'est né quand, la responsabilité sociétale des entreprises ? C'est un nouveau concept. Hier soir, on parlait d'IA avec des cabinets de recrutement qui nous disaient « Ah ben non, l'IA, nous on travaille avec pour recruter depuis des années et des années », ce qui nous a un peu surpris avec Cécile. C'est né quand, la RSE, à vos avis divers et variés ? Si vous avez des avis différents, bien entendu. Hein. Allez-y.
La RSE, ouais. c'est né il y a un certain nombre d'années.
Ça, c'est précis.
C'est devenu obligatoire en 2019 avec la loi Pacte, puisque maintenant, il y a une inscription dans la loi sur la responsabilité des entreprises dans leur statut. Mais c'est issu d'une politique assez longue qui a été portée par l'ONU depuis 95, je crois.
Donc ça fait 30 ans.
Donc voilà. Et qui s'est traduit dans droit français en RSE, qu'on peut aussi également appeler ESG quand on réduit à la seule responsabilité gouvernance sociale et environnementale.
Quand les entreprises viennent...
Juste pour compléter un petit peu, les premiers rapports obligatoires pour les entreprises de taille intermédiaire sont plutôt de 2012, avec le Grenelle de l'environnement sous Sarkozy.
Oui.
Mais après, le premier rapport qui a mis en lumière le fait qu'on avait un petit problème climatique, c'est le rapport Meadows dans les années 72, où on a commencé à dire, attention, une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Et je pense que c'est une des premières approches de la RSE, c'est aussi d'arriver dans une direction, dans une entreprise, pour dire attention, on ne pourra pas continuer à avoir cette croissance avec des ressources planétaires qui ne sont pas infinies. Et donc c'est un des rôles de la RSE, il n'y a pas que l'environnement, mais c'est un des rôles primordiaux.
Il y a quoi d'autre que l'environnement, par exemple ?
Et ben, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a tout l'aspect social, prendre soin des collaborateurs pour qu'ils soient épanouis, leur donner du sens. Et on voit que c'est une mode très importante dans les entreprises depuis le Covid, depuis cette crise qu'on a vécue, où on s'est dit finalement avoir du temps pour soi.
Oui, parce que c'était pas flagrant avant le Covid quand même, même si c'était obligatoire, on sentait pas vraiment les entrepreneurs, en tout cas, très enclins à changer de modèle.
Oui, je pense que les collaborateurs des entreprises ont vraiment pris conscience de l'importance du temps. Et ça a vraiment drastiquement changé. Il y a l'avènement du télétravail qui a énormément...
Bouleverser les choses. Émilie Ouvray-Fortine voulait réagir.
Ouais, tout à fait. Moi, je suis entrepreneuse, en l'occurrence, et je suis une entrepreneuse engagée, donc ça résonne quand vous en parlez, Arnaud, parce que moi, j'ai une approche RSE qui, je vais vraiment prendre le premier mot, c'est responsabilité. Pour moi, c'est notre responsabilité de dirigeant d'entreprise, notre responsabilité de citoyen, en fait, de consommateur, d'homme, de femme, de chaque jour faire de notre mieux. Donc, pour moi, il y a un aspect vraiment d'incarnation. C'est pas toujours le cas, en l'occurrence, des entreprises qui mettent en place un plan RSE. Mais moi, c'est mon approche, en tout cas.
Non, mais vous avez fabriqué votre entreprise.
Ah, j'ai fabriqué mon entreprise.
Avec cet engagement-là, ce qui est différent d'entreprises qui, aujourd'hui, sont obligées de changer de modèle. C'est ça, le problème.
Alors, oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, qui sont contraintes de changer de modèle. Elles le sont contraintes par la réglementation pour certaines, notamment la fameuse réglementation européenne qui s'appelle la CSRD, qui est arrivée en janvier.
Ça veut dire quoi, CSRD ?
C'est le piège. En RSE, il y a tellement d'acronymes.
Ouais, alors, c'est Corporate, Sustainability, Reporting...
Directive.
Voilà. En français, on dit durabilité.
Sustainability, c'est durabilité, c'est ça.
Ouais. Exactement.
Vous vouliez réagir notamment Isabelle Grenier.
Oui,
Maître Isabelle Grenier, pardon, vous êtes avocate.
Isabelle. Oui, effectivement, quand on parlait tout à l'heure de RSE, c'est effectivement une notion ancienne. Dès les années 50, il y avait déjà des rapports qui pointaient cette responsabilité sociétale des entreprises. Mais effectivement, c'est une préoccupation qui a émergé assez récemment. Dans la réglementation française, vous parliez de 2012 et des lois Grenelle, mais il y avait déjà la loi Nouvelle Régulation Économique de 2001 qui imposait effectivement aux grandes entreprises cotées d'avoir un reporting annuel de leurs obligations sociales et environnementales. Mais la difficulté, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, il y avait une distorsion, il y avait en fait des actions de communication. Il y avait beaucoup de sociétés qui communiquaient sur leur responsabilité sociétale et en fait, c'était un peu du greenwashing.
Oui, c'est ça.
Et du coup, c'est la raison pour laquelle l'Europe s'est emparée de ce sujet dans le cadre du pacte vert et qu'on a cette fameuse directive durabilité, pour parler en français, directive devoir de vigilance, qui veut aller plus loin et en fait mettre des normes de reporting qui soient équivalentes, qu'on puisse comparer les entreprises et éviter justement ces actions de communication, que ce soit véritablement des entreprises engagées.
Clément Arnaud, quand on se positionne, nous, on parle d'Europe, forcément, on en est où en France par rapport à nos voisins sur cette RSE ?
Je pense qu'on est un pays plutôt avancé. Cette fameuse CSRD, on est le premier pays à l'avoir transposée dans la loi française. Et après, selon les pays, il y en a qui vont plus ou moins alléger les obligations légales pour les entreprises.
Parce que culturellement, on a des pays voisins qui sont beaucoup plus avancés que nous, mais c'est dans leur ADN.
Oui, alors ça dépend de quoi on parle. Sur l'aspect environnemental, sur l'aspect bien-être au travail, c'est vrai que les pays nordiques sont très avancés.
Par exemple.
Sur l'aspect environnemental, on a un mix énergétique en France basé sur du nucléaire et de l'hydraulique principalement, qui est plutôt bon. Et donc, pour attirer des entreprises, pour mettre en place des data centers, par exemple, la France est un bon endroit pour le faire, plutôt que de le faire dans des pays hyper carbonés.
Mais il y a une question qui se pose, la France est le pays qui a le record d'inflation législative, mais de lois non appliquées. Est-ce que les lois relatives à la RSE, vous pouvez toutes répondre, mais vous maître, enfin Isabelle Grenier, est-ce que les lois sont appliquées ou est-ce qu'elles sont faites, comme souvent malheureusement, un peu pour décorer ?
Alors, on peut nuancer le propos, mais c'est vrai qu'on est un des pays qui a le plus de législation, qui a le plus intégré en fait la RSE dans le champ législatif et réglementaire, donc dès 2001. Mais on a aussi été le premier pays à adopter une loi en matière de devoir de vigilance suite à l'effondrement d'un immeuble au Bangladesh qui avait mis en lumière effectivement...
Qui s'appelait le Rana Plaza, qui fabriquait pour les grandes multinationales de textiles, où il y a eu des dizaines de morts. Oui.
Voilà, exactement, des milliers de morts. Et du coup, effectivement, on a été un des premiers pays à se doter d'une législation en matière de devoir de vigilance pour imposer aux entreprises d'auditer en fait leur chaîne de valeur et de vérifier effectivement les conditions de travail des travailleurs, de leurs sous-traitants, fournisseurs et autres.
Et voilà. Et on fait une petite pause. Je vous coupe parce que
vous aurez la parole.
On revient dans un instant. Je suis obligée de vous couper. Et on va revenir aussi sur le terrain parce que c'est important. Et c'est vrai que l'appartement français, c'est exactement dans cette, ça a été fabriqué en tout cas dans cette idée de se dire que d'abord les territoires, les circuits courts. On en parle dans un instant. Et puis bien entendu, vous pouvez réagir au 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, votre avis fait la différence.
Merci à vous pour la qualité des débats et du pluralisme que vous apportez, qui fait un bien fou à notre démocratie.
Sud Radio, parlons vrai.
Elle, talent prometteur, en quête d'un contrat d'apprentissage. Lui, patron de PME à la poursuite d'une jeune pépite. Ils se sont trouvés sur iscode.fr. L'école business et IT, 100% en ligne, 100% en alternance, avec des rentrées toute l'année. Entreprise, apprentis, unissez vos talents sur iscode.fr. IT égale informatique.
Sud Radio Le Puy-en-Velay.
91.
Sud Radio.
On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
Avec But, on apprécie de plus en plus la cuisine allégée. Pas en matière grasse, non. Allégée au prix. Et ça, c'est très bon pour la santé. La santé de vos finances, j'entends.
Les journées portes ouvertes de la cuisine, c'est chez But. Profitez de remises jusqu'à 30%, de la pause offerte et de financement exceptionnel. Faites vite, ce sont les derniers jours. Conditions des offres, sélection cuisine en magasin et sur but.fr.
Leclerc, bonjour.
Fermez les yeux et concentrez-vous sur ma voix. Voici deux conseils pour un profond bien-être. Étape 1. Prenez un lot de gel douche Tahiti. Étape 2, prenez...
Un deuxième lot de gel douche Tahiti.
Oh, comment vous avez deviné ?
Facile! Jusqu'au 18 mai, pendant l'opération beauté, le lot de 3 gels douche Tahiti est à moins 34%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Variété disponible, vanille, citron, coco ou grenade. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Intersport, promotivé comme jamais.
Bon, je crois que nos clients en ont assez des chemins tout tracés.
Eh bah, direction le sentier promo avec Nakamura.
Ah bah voilà, ça c'est de l'aventure.
Jusqu'au 2 juin chez Intersport, c'est plus de chemin pour tous les budgets. Le VTT Nakamura Summit Limited est à 399,99€ au lieu de 599,99€, soit 200€ de remise. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables.
Les vraies voix responsables avec Philippe David et nos invités jusqu'à 20h. Les entreprises ont une responsabilité. On en parle ce soir. Ça s'appelle la responsabilité sociale, sociétale des entreprises. La RSE, vous avez certainement déjà entendu ce nom. Aurélie Giraud est avec nous, experte en RSE, fondatrice de Mecoa. Et Émilie Auvray-Fourtine est entrepreneur, fondatrice de l'appartement français. Isabelle Grenier qui est avec nous, décidément, avocate au barreau de Marseille. Et puis Arnaud Clément, vous êtes en minorité ce soir.
Oui.
Directeur de RSE
chez
Adista. Difficile, on disait hors antenne, difficile pour certaines entreprises de petite taille, hein, soyons clairs, même de grande taille, parce que quand il faut faire bouger un mammouth, c'est toujours très compliqué, parce que ça coûte de l'argent finalement, la mise en place de cette RSE dans une entreprise. Financièrement, c'est pas totalement... c'est quand même, ça peut, oui, c'est pas totalement neutre, je cherchais le mot. Merci Philippe, merci beaucoup.
Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant qui est en train de se passer avec la RSE et la CSRD en particulier, c'est que on pourrait penser que la CSRD ne s'adresse qu'aux grandes entreprises, mais comme ça impacte toute la chaîne de valeur, tous les fournisseurs de rang 1 jusqu'à rang N sont concernés par la directive aussi.
C'est quoi le rang 1 au rang N ?
C'est les premiers fournisseurs qui vendent directement à l'entreprise leurs produits ou leurs services. Et puis le fournisseur de rang 2, c'est le fournisseur qui vend au fournisseur de rang 1 qui va vendre à l'entreprise. Donc toute la chaîne de valeur est impactée et ce que demande la directive, c'est que les entreprises reportent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc les entreprises clientes vont demander à tous leurs fournisseurs de fournir des indicateurs à la fois sur où est-ce qu'ils en sont par exemple en termes de décarbonation et puis qu'est-ce qu'ils vont faire en termes de politique de décarbonation pour améliorer le sujet. Et je ne parle que du carbone.
Ouais.
Ce qui est important, c'est que du coup, toutes les entreprises sont concernées par ça. Et là, on assiste à quelque chose qui est assez intéressant, c'est que les choses se retournent. Avant, on ne pensait qu'à nos clients. Et maintenant, les entreprises commencent à se préoccuper de leurs fournisseurs. Parce que maintenant, les entreprises vont devoir aider leurs fournisseurs dans ces démarches. Parce que si les fournisseurs n'ont effectivement pas les moyens... ni les compétences pour pouvoir se transformer, les clients vont se retrouver sans personne de suffisamment responsable pour travailler avec eux. Donc les entreprises doivent se retourner vers leurs fournisseurs et elles doivent leur donner le coup de main qui leur permettra de financièrement soutenir les transformations, mais aussi l'organisation de ces transformations.
Mais ça a quand même un risque sur l'économie, forcément. C'est le fait de se dire qu'on se coupe de certains fournisseurs et on se tourne vers d'autres, ça a un impact financier sur le produit, ça a des impacts quand même qui sont colossaux aujourd'hui.
L'impact du changement climatique sur l'économie est aussi extrêmement important.
Bien
donc,
sûr.
De toute façon, on est un peu coincé, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose. D'une manière ou d'une autre, il va falloir payer des choses qu'on n'est pas prêt à payer aujourd'hui et qu'on commence déjà à payer quand on voit les inondations et les différents problèmes qu'on a sur les sécheresses. Mais la question, c'est ça, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas financer la transformation de la chaîne de valeur ou financer les dégâts.
Mais il y a dans RSE, il y a sociétal et environnemental. Est-ce qu'on peut cumuler les deux tout en restant compétitif ? Parce qu'on est quand même dans économie mondialisée, ce qui pose question, Arnaud Clément.
Oui, moi j'aurais complété d'abord sur l'aspect achat. En fait, si vous achetez un produit, un micro pour Sud Radio à 100€ et qu'il y en a un autre à 150€, lequel est le moins cher ?
Ah bah ça dépend.
Et bah ça
parce
dépend.
Que si par exemple celui à 100 euros, il consomme beaucoup plus d'électricité que celui à 150, à l'usage, il sera moins cher.
Si celui à 100 euros, il est garanti 2 ans, celui à 150, il est garanti 5 ans, etc. etc. Donc il y a un aspect économique et les achats responsables, c'est aussi ça, c'est regarder le coût total de possession et pas uniquement le coût d'achat. On peut faire la même chose quand on achète un t-shirt à titre perso, etc. Donc les achats responsables, en effet, c'est un pilier qui est très important, mais on peut faire rimer du coup écologie et économie, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça a pas forcément, ils sont pas forcément en guerre l'un contre l'autre.
Émilie Ouvrefortine, vous voulez réagir ?
Oui, en effet, on parle de micro, on parle de t-shirt. Nous, on a tendance à dire dans le Made in France qu'un t-shirt de la fast fashion, en fait, on le paie trois fois. Il y a la valeur faciale à l'acquisition, il y a aussi la valeur sur la santé et la valeur sur l'environnement. Donc, en fait, il coûte beaucoup plus cher.
Oui, beaucoup plus cher parce qu'en plus, il a une durée de vie qui est quand même très mince. Mmh. Avant de monter cette entreprise qui s'appelle l'appartement français, vous faisiez quoi ? Qu'est-ce qui finalement a déclenché chez vous ce besoin de se dire « moi, je veux aujourd'hui participer à ce changement de société ?»
J'ai eu la chance, en fait, de toujours baigner dedans. Moi j'ai eu un cadeau, j'ai reçu la confiance quand j'avais 24 ans, d'une boîte de cosmétiques très éthique, très engagée, une boîte anglaise qui m'a dit vas-y, monte-nous des marchés et fais le bien. Et du coup, j'avais la chance de vendre des produits complètement magnifiques, qui sont bons pour la santé, qui étaient sans emballage. Donc j'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans. Et donc ma vie, c'était le retail. Et un jour, je me suis dit, mais comment je pourrais aujourd'hui créer un lieu de rencontre, donc un concept store, où on puisse offrir le plus beau produit qui soit aux clients. Et c'est forcément un produit fabriqué qui est localement, qui a une éthique, qui a des matériaux qui est responsable, un prix accessible. Et du coup, voilà, l'appartement français est né.
Isabelle Grenier veut réagir.
Oui, moi je pense que effectivement dans la RSE, il y a un impact financier, mais pas que. Il y a des choses très simples et qui peuvent ne pas coûter d'argent, qui sont susceptibles d'être faites, y compris par des toutes petites entreprises. Moi, j'ai un client qui est un traiteur, qui a installé des toits végétalisés avec des ruches, qui travaille un peu sur son empreinte carbone, qui a mis en place une cantine solidaire pour les restes. Et en fait, finalement, il a aussi travaillé sur le social, sur la dimension salariée, comment... Et en fait, c'est presque un levier de compétitivité pour cette entreprise. D'abord parce qu'il fidélise ses salariés, ses collaborateurs avec les questions de qualité de vie au travail. Et aussi, finalement, son ancrage sur le territoire, le fait finalement de venir en aide à des personnes qui n'ont pas les moyens de faire trois repas corrects par jour, ça l'ancre dans la société et ça lui donne finalement un avantage compétitif, concurrentiel par rapport à d'autres. Et c'est des choses des fois très simples à mettre en œuvre. Mmh. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a des dispositifs d'aide aujourd'hui qui existent, notamment l'ADEME, en partenariat avec le ministère de l'Écologie, a mis en place une aide.
L'Agence pour la défense de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. On le rappelle pour les auditeurs qui ne le savent peut-être pas tous.
Allez-y. Un dispositif de subvention qui va de 5 000 à 200 000 euros, qui s'appelle Tremplin pour la transition écologique des PME et qui permet de financer justement certains dispositifs qui peuvent être onéreux pour les petites et moyennes entreprises.
Alors ça, c'est un bon exemple, mais Arnaud Clément, quand on parle d'industrie, par exemple, d'entreprise, de la data, de toutes ces entreprises qui utilisent des écrans, c'est difficile quand même aujourd'hui.
Oui, c'est compliqué. Le premier impact du numérique, c'est les écrans, vous venez de les citer, à quasiment 30%. Donc souvent, on stigmatise les data centers et bien sûr qu'ils ont une responsabilité. Nous, la consommation d'énergie pèse 3% de notre bilan carbone. Donc c'est rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts pour diminuer cette consommation et consommer différemment, acheter des contrats verts, etc. Mais finalement, le sujet numéro un, c'est d'allonger la durée de vie des équipements et d'embarquer les clients avec nous pour leur expliquer que il faut essayer de pas renouveler ces équipements tous les 36 mois, mais plutôt 60 mois.
De les réparer, etc. Surtout.
Mais je vais poser une question. Est-ce qu'on peut faire vraiment un bilan environnemental ? Je vous prends un exemple. Vous achetez une voiture, elle est fabriquée avec de l'acier. L'acier aujourd'hui, c'est de la sidérurgie électrique. Mais si ce jour-là, l'usine électrique, elle est alimentée par l'électricité nucléaire ou de l'électricité au charbon ou pire à la lignite qui vient d'Allemagne, le bilan n'est pas du tout le même. Mmh. Et pourtant, on peut pas le savoir. Donc, est-ce qu'on n'est pas quelque part un peu dans l'abstrait ou dans la volonté, je vais être un peu provocateur, de se faire plaisir et de se donner une bonne conscience.
Alors, d'abord, je voudrais rajouter quand même quelque chose de très positif, c'est que les entreprises qui ont mis en place des politiques RSE, selon l'étude de France Stratégie, engrangent une performance de 13% supplémentaire que les autres. Donc, c'est quand même.
Qu'est-ce que vous appelez performance ? C'est pas uniquement le résultat financier.
Performance économique de l'entreprise, développement de l'entreprise de 13 points supplémentaires que celles qui n'ont pas commencé à travailler sur leur stratégie RSE. Ça, c'est une étude de France Stratégie, donc c'est plutôt encourageant.
Ce qui est assez énorme quand même, 13%.
Oui, c'est beaucoup. Oui. Après, par rapport à votre question, en fait, on a des informations. On n'a pas toutes les informations, mais on a des informations. Mais ce que vous relatez là est très intéressant parce que, en fait, aujourd'hui, c'est un des freins à l'amélioration des choses, c'est-à-dire qu'on cherche des données exactes.
Oui.
Or, en fait, la RSE, c'est pas une science exacte. C'est une science de progression. Enfin, c'est une, je dirais, une discipline de progression. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de faire mieux. C'est pas de savoir si mon bilan carbone il est au kilogramme près de CO2.
C'est de changer le paradigme
c'est,
en fait.
C'est hein, voilà. C'est est-ce que le volume de carbone que j'émets aujourd'hui en construisant une voiture il est à peu près
XY
voilà. Et combien je réduis, comment je fais pour réduire cet impact, pour améliorer ma trajectoire. Donc la RSE en fait c'est ça, c'est améliorer la trajectoire à la fois sur la partie environnementale, mais aussi sur le social, sur la gouvernance et sur la relation des affaires.
Pour compléter, on sait compter le carbone aujourd'hui par rapport à votre question. C'est facile, ça fait 20 ans qu'on sait le faire. De plus en plus, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des méthodes qui sortent à l'ADEME, qu'on a cité tout à l'heure, pour dire on va compter de la même façon chez deux opérateurs différents, chez deux personnes qui fabriquent des vêtements. Donc il y a des méthodes pour compter. On perd un temps fou à compter. C'est contre-productif. On sait qu'à la fin, on a un résultat qui est à peu près faux.
Oui. Donc c'est utile de compter pour avoir un résultat à peu près faux.
Arrêtez de compter, c'est ce que je dis à mon banquier, moi, tout le temps.
C'est l'absurdité des lois qui nous obligent à compter. Mais ça a un côté vertueux qui est que, du coup, il faut réduire et on sait mieux comment réduire une fois qu'on a compté. Nous, 3% de nos émissions qui venaient de l'énergie, avant de compter, on ne pensait pas que c'était aussi faible. Donc ça a une vertu, mais on perd beaucoup de temps à compter. Alors
c'est
que
vrai
la
que
priorité,
vous aviez aucune notion de ce que ça représentait.
On sait qu'on est dans un pays avec une énergie, ouais. Un mix qui est plutôt vertueux, ouais. Mais on ne pensait pas que c'était aussi faible et que les équipements étaient aussi importants. Donc on perd du temps à compter pour au final apprendre des choses, mais sans...
Voilà, sans... Enfin, c'était plutôt une bonne nouvelle, au moins pour le coup.
Sur ce point-là, oui.
Après, sur l'ADEME, il y a une base qui s'appelle la base empreinte. Dans lequel on a beaucoup d'informations qui permet de, pour les personnes comme nous par exemple, d'aller justement comptabiliser les impacts de l'acier qui a été récupéré,
produit.
Du recyclage, de là où il a été transformé, quelle va être aussi sa fin de vie, est-ce qu'il va être jeté, est-ce qu'il va être recyclé, etc. Donc tout ça change la donne en termes d'impact. Et toutes ces informations-là, aujourd'hui, elles sont quand même dans une énorme base de données, il y en a plusieurs, et qui sont accessibles pour les consultants et les entreprises.
Et la question, c'est de savoir si vous et moi, Philippe, nous sommes recyclables. Ça, c'est une...
Je ne sais pas.
Vous avez été transformé, vous Non, mais il serait temps que ce soit le cas.
Vous ne me sous-entendez pas comme valorisation des déchets.
Non. Allez, à tout de suite.
Merci.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Depuis que j'écoute Sud Radio avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Rocher et André Bercoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous.
Sud Radio, parlons vrai.
Nocibé. Do it. Parce que votre maman mérite d'être gâtée. Chez Nocibé, retrouvez des cartes cadeaux et des coffrets instituts pour qu'elle se fasse chouchouter. Click and collect en une heure seulement. Nocibé, la beauté partagée.
Sud Radio Aurillac.
101.
Sud Radio.
En ce moment, chez Conforama, tout le monde gagne.
Avec le canapé de relaxation 2 places Hayden, avec assise coulissante et tétière ajustable, à 599,99€.
Soit 40% de remise.
Conforama. Jusqu'au 3 juin, voire conditions sur Conforama.fr.
Saviez-vous que la production de collagène diminue à partir de 20 ans? Pour une peau repulpée et sublimée, découvrez Manae Collagène Expert, le complément alimentaire qui associe collagène et acide hyaluronique dans une seule gélule. Retrouvez toute la gamme Manae en pharmacie et parapharmacie. Manae, une marque VitaVea. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, avec AG2R La Mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
TF1. Demain, Morgan Alvaro revient avec un secret.
Mais t'es enceinte, hein ?
Seul problème, elle ne sait pas qui est le père. Décidément, elle n'a pas fini de nous surprendre. HPI saison 4 inédite avec Audrey Fleureau. Demain à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, là, ça envoie du bois.
Quoi ?
Des bâtonnets, patron. En ce moment, les 8 bâtonnets glacés vanille amande, dont un offert, sont à 3,09€.
Quoi ?
Les 8 bâtonnets glacés sont à 3,09€. Oh, j'en ai déjà l'eau à la bûche.
Oh là là, ton humour me laisse de glace. T'es mal, hein ?
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 4,60€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
La recette de veau pour la Pentecôte, c'est très simple. On prend une belle côte de veau savoureuse, choisie par son boucher. On ajoute un week-end prolongé, on fait revenir toute la famille, on les fait mijoter dans l'herbe du jardin le temps de la cuisson. Et une fois qu'ils ont doré au soleil, on peut servir la côte de veau à table, accompagnée d'une bonne tranche de rigolade. Vous allez vous régaler pour la Pentecôte. Ah, et ça marche aussi avec du tendron, du pavé et tous les délicieux morceaux de veau à retrouver sur bravoleveau.com.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables.
Ce mot responsable dans cette émission, bah, vous le connaissez puisque c'est tous les mercredis soir, on parle des entreprises, bien entendu de la responsabilité sociétale des entreprises, pas mal d'invités autour de la table. Et je voulais revenir avec Émilie Auvray-Fourtine pour entrepreneuse hein, et fondatrice de l'appartement français. Donc vous, c'est forcément du local, c'est forcément du made in France. Et est-ce que ça veut dire que quand vous vous adressez à un fournisseur, vous dépiauter totalement, et c'est quoi ? Faut faire confiance aussi à un moment donné ?
Oui, je suis complètement pour la confiance, cependant c'est absolument pas suffisant pour la traçabilité. Et...
La confiance, c'est que je suis pas le contrôle, hein. C'est la première qu'on utilise régulièrement.
Exactement, donc oui, on a une relation contractuelle avec chacun de nos fournisseurs et on a la traçabilité de chaque étape de fabrication, la provenance de chaque matériau, de chaque produit. Mais j'aimerais revenir sur l'aspect économique, dans la réalité terrain de la TPE, PME, de l'entrepreneuriat, il y a quand même assez peu d'accompagnement financier, voire aucun. Et pour moi, il y a quand même une grosse notion qui est la notion du renoncement. Il y a un prix à payer pour tout ça, hein, notamment un prix économique. Quand on regarde le bilan de beaucoup d'entreprises, bon, du Made in France ou qui ont une éthique très engagée, il y a très souvent des choix qui sont faits. Mais c'est complètement OK, c'est complètement
exemple. Donnez-nous un exemple, par exemple.
Un exemple, c'est la marge sur les produits fabriqués en France. C'est une marge x2. Quand sur du prêt-à-porter ou de l'accessoire, déco, etc. Quand du made in ailleurs, c'est du x4, x5, x20. Donc évidemment, le résultat n'est pas du tout le même. Donc comment économiquement rendre le modèle viable ? Et vous parliez de changement de paradigme tout à l'heure. Pour moi, c'est exactement ça. C'est un changement de paradigme surtout sur la gouvernance, sur la façon de manager, sur la façon d'être altruiste, pardon, avec ses fournisseurs, ses clients.
Mais même sur la pédagogie du client, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous pouvez être en phase avec la société, avoir des clients qui ne le sont pas. Donc là, pour le coup, vous avez porte fermée.
Tout à fait. Et il y a aujourd'hui des filières qui paraissent en plein développement et qui sont très médiatisées. C'est formidable, comme la filière du lin, mais qui économiquement, enchaîne les liquidations sur le sujet.
Oui, parce que le lin est produit en France, en général, notamment en région Normandie, parce qu'il faut un microclimat. Il part à l'autre bout du monde en Asie pour être tissé et il revient à l'autre bout du monde en Asie, en Europe ou en Amérique, etc., pour être porté par les consommateurs. C'est complètement fou.
C'est ça. 75% de la production mondiale de lin vient de France et on exporte 90%. Et on le fait revenir parce qu'on adore le lin.
Oui,
c'est ridicule.
Je me pose une question, là, vous me l'avez inspiré, sujet de philosophie, vous avez 4 heures, enfin pas tout à fait. Est-ce que la RSE est compatible avec la mondialisation ? Est-ce que ma question inspire quelqu'un ? Arnaud Clément, manifestement. Je sens qu'il voulait faire, c'est une bonne question.
Oui, c'est une très bonne question, merci. Suivant.
Ben, bienvenue, non, c'est Émilie Auvray-Fourtine qui me l'a inspiré.
Je pense que le seul avantage que je vois avec l'adoption justement de la fameuse directive durabilité CSRD et de la prochaine directive devoir de vigilance qui vient d'être adoptée, c'est qu'on a une dimension extraterritoriale, c'est que ça ne concerne pas que les entreprises européennes. Donc ça c'est un véritable avantage, c'est-à-dire que au lieu finalement d'imposer des normes à nos entreprises européennes et finalement de faire rentrer sur le marché européen des produits qui respecteraient pas ces normes, là toutes les entreprises qui veulent opérer sur le marché européen vont être soumises aux mêmes règles du jeu. Après, la difficulté, c'est qu'on a, ce qu'on a dit, c'est que ça ne concerne pour l'instant que des très grosses entreprises. Donc, le petit fournisseur.
Est-ce que c'est applicable à tout le monde? C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est le problème. C'est comme les voitures qui viennent de Chine. C'est comme l'agriculture. On est tous au même, voilà, on est logés tous à la même enseigne. C'est-à-dire que où on fait une directive et on est, quel que soit le niveau de l'entreprise, tout le monde est logé à la même enseigne, ça va être difficile, Arnaud Clément.
Oui, ça va être difficile de répondre. Non, moi je dirais que...
Vous pouvez répondre aux deux à la fois, il n'y a pas de problème.
On va plutôt se démondialiser.
Ouais.
Parce que on le voit, le Made in France est en marche et c'est pas le seul. Moi, je parlais de la tension sur les ressources planétaires. À partir du moment où on a moins de ressources planétaires, bah, les pays qui les produisent vont vouloir les garder pour eux. C'est assez logique. Donc je pense qu'on va revenir à du local et que ça va nous être imposé physiquement par le fait que bah, il y aura plus suffisamment de matière pour tout le monde. Donc c'est pas que c'est incompatible, c'est qu'au contraire, la RSE prépare à ces risques. Et donc faire de la RSE, c'est avoir 13% de croissance de plus que les autres, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est anticiper ces risques qui vont de toute façon arriver. Mmh. Ça fait 50 ans que les scientifiques nous alertent, on y est là.
Aurélie Giraud, vous êtes d'accord avec ça?
Ah, complètement d'accord avec ça.
C'est donc pas compatible avec la mondialisation de la RSE, où ça va démondialiser. Vous avez un peu cité Arnaud Montebourg, peut-être sans le faire exprès.
Ah oui, non, pas du tout. Mais...
Alors, c'est en fait la RSE qui va se mondialiser, je pense. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se faire. La CSRD, effectivement, a un impact extraterritorial, puisqu'elle pousse les pays aussi qui sont fournisseurs de l'Europe à regarder chez eux ce qu'ils font. Mais la Chine, les États-Unis sont des pays aussi qui prennent beaucoup de mesures en matière de RSE, sur notamment le carbone. On n'en parle pas beaucoup, mais ce sont aussi des pays qui se mobilisent aujourd'hui. Et c'est des pays qui se mobilisent parce que elles prennent de plein fouet aujourd'hui dans leur pays. On voit les inondations, on voit les catastrophes climatiques qu'il peut y avoir aux États-Unis. Ça les fait aussi réfléchir sur l'impact de cette mondialisation sur la vie au quotidien des gens dans leur pays.
Mais est-ce que là, on n'est pas un peu aveugle de dire que cette responsabilité, c'est d'entreprise B2B, d'entreprise à une entreprise? Pour votre cas, à vous, avec l'appartement français, c'est de l'entreprise au client. Le client, tant qu'il ne sera pas, entre guillemets, c'est terrible ce que je vais dire, mais obligé ou taxé comme le sont les entreprises, est-ce qu'il n'y aura pas une dichotomie entre les entreprises se parlent entre elles, elles sont toutes vertes, et le client final va continuer à acheter au Bangladesh, en Chine et tout. Là, il y a quelque chose qui sonne pas très juste, quand même.
Il y a une injonction contradictoire.
Bah oui, mais finalement, in fine, ce qui fait tourner le monde, c'est la personne qui achète.
Après, il y a une vraie sensibilité du client, et 90% des Français qui disent qu'ils préfèrent acheter local. Mais quand ils ont le choix, en fait, parce qu'il y a
tellement de greenwashing,
de marketing qui mensonge produits éco-responsables dont 3% est véritablement recyclé. Enfin, il est perdu. Et en fait, il a besoin de pédagogie, il a besoin d'éducation, il a besoin de transparence, mais
il a besoin de ménage aussi.
De ménage énormément.
Et surtout ces logos que l'on voit qui veulent rien dire et on a l'impression que ce sont des vrais logos.
Vous avez dit, il y a du French washing, par exemple, c'est-à-dire qu'on achète des produits made in France qui sont pas made in France, par exemple.
Le made in France, c'est un pourcentage de valeur ajoutée.
Théoriquement, c'est plus de 50% de valeur ajoutée pour avoir le droit de marquer made in tel pays.
Enfin, Mais je crois que les produits qui ont le drapeau français, ils n'ont rien à voir avec.
Moi, je serais plus revenu sur le pouvoir d'achat, en fait. Oui. On a 11 millions de personnes, je crois, en France, qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Oui.
Je n'ai pas piqué Arnaud Montebourg, celle-là.
Non.
Et du coup, je pense que
malheureusement,
quand on n'a pas le choix et qu'on a besoin, envie de consommer, on va à ce qui coûte le moins cher. Et donc, évidemment que les Français auraient envie de consommer responsable, mais malheureusement, c'est pas possible pour tout le monde.
Mon arrière-grand-mère disait « je n'ai pas les moyens d'acheter bon marché », mais on va y arriver.
Oui, c'est l'histoire du micro.
Ouais.
C'est, finalement, je préfère investir un peu plus dans quelque chose que je vais garder que investir dans du jetable.
Mais comment éduquer, c'est ça? Parce que vous avez cette proximité, vous êtes sur le terrain, ce qui est un petit peu moins les entreprises. Cette pédagogie, d'abord, vos clients, c'est qui? Est-ce que c'est une jeune génération? Est-ce que finalement, c'est une génération un peu plus âgée qui se dit pourquoi pas, qu'il y a un peu plus de sous? C'est qui?
C'est toute génération, tout milieu sociaux. En fait, on a beaucoup de jeunes maintenant aussi, des tout jeunes 18 ans qui demandent de la seconde main d'ailleurs, donc formidable. Ils nous poussent à changer aussi nos habitudes d'achat. Tout âge et qui achètent peu, qui achètent moins,
mais mieux.
Mieux, Exactement, moins mais mieux. Mais il y a notamment, je trouve, des outils fabuleux, j'ai envie de le mentionner. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Frédéric Laloux, qui a écrit Reinventing Organizations, qui est un formidable auteur sur...
Réinventer l'organisation, ça, mais ça se comprenait à peu près.
Mais il a récemment créé un outil pédagogique que je trouve fantastique, que nous, on diffuse auprès de nos clients, de nos fournisseurs, qui s'appelle The Week, tout simplement. Et en fait, ça se fait autour d'un apéro, trois apéros, trois jours de suite, concrètement, hein, entre amis ou dans l'entreprise.
Ça vous parle, l'apéro, Philippe David ?
Je trouve ça très intéressant. Avec des produits locaux, j'en connais des très bons, même.
Et ça a un impact pédagogique au sein de n'importe quel groupe qui vit ce parcours, mais qui est complètement décuplé. Et nous, pour l'avoir fait avec plein de clients, on a des clients qui nous disent « Mais merci, en fait, vous avez changé ma vision du monde grâce à cet outil. » Donc pour moi, aujourd'hui, voilà, ça doit passer par des outils ludiques. Alors, ludique et partagé.
Vous deux qui êtes dans des entreprises, c'est ça aussi le rôle de l'entreprise au travers de ses employés. C'est aussi de transformer, de changer la pédagogie en interne.
Oui, la priorité, c'est d'embarquer. Il faut d'abord une direction qui est convaincue et ensuite, il faut embarquer les collaborateurs.
Chez vous, quatre piliers importants, RSE.
Allez-y.
Non, mais justement, que j'ai regardé ce que vous faisiez quand même. Et vous proposez, vous dites que ce sont des quatre piliers indispensables pour la transformation de l'entreprise.
Oui, le premier, c'est vraiment d'embarquer les collaborateurs. Oui. C'est hyper important parce qu'on est deux à faire de la RSE, on est 1200 dans le groupe. Donc si on veut avoir de l'impact, en fait, il faut être 1200. Et du coup, on joue des fresques du climat, qui est un autre atelier ludique, une autre formalité pour comprendre les impacts du dérèglement climatique. Et les personnes qui jouent la fresque peuvent devenir animateurs et peuvent devenir fresqueurs. Et donc ça, c'est vraiment un super outil. Donc c'est un pilier qui me paraît essentiel. Embarquer les collaborateurs dans l'aventure.
Isabelle Grenier voulait réagir juste avant.
Oui, effectivement, ce que vous disiez, c'est très juste. Il faut embarquer, j'allais dire, toutes les parties prenantes. Alors, les salariés, collaborateurs, ça en fait partie, mais aussi ses clients. Enfin, vraiment, toutes les parties prenantes. Et moi, ce que je pense, effectivement, ce que vous disiez, il y a une dimension d'éducation, c'est-à-dire que le client a un rôle majeur à jouer. Oui. Moi, ce que je trouve positif aujourd'hui, c'est qu'on commence à avoir, l'école et labelliser l'école de mes enfants éco-responsable. Donc, pique-nique, rien, aucun déchet, zéro déchet. Et on commence à avoir cette conscience écologique. D'ailleurs, moi, je me fais taper sur les doigts si je jette quelque chose qui va au recyclage par mégarde. Oups, donc, la boulette. Finalement, je pense que c'est les jeunes générations qui vont aussi nous pousser, qui vont changer les habitudes. On le voit chez les jeunes, les tendances de consommation évoluent.
Ils continuent à acheter sur Shine, ça les dérange pas du tout, avec une conscience écologique. Il y a quand même beaucoup de.
Il y a du travail à faire.
Oui,
effectivement. Je pense que c'est toujours.
C'est pour
pareil,
ça qu'il faut pas se mentir. Il y a marqué parlons vrai sur nos murs, mais il faut pas se mentir. C'est vrai que les choses doivent changer.
Elles évoluent lentement.
Il y a encore beaucoup d'hypocrisie quand même en disant nous on est comme ça et finalement quand vous regardez dans les poubelles de vos copains, vous vous dites pas tant que ça. Finalement
je suis pas si mal que ça.
Finalement je suis pas mal. Allez,
il va falloir approfondir l'apéro, parce que là je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, des produits locaux français, on est la radio des territoires. Arrêtez-le. On a des tonnes d'infos à vous donner.
Arrêtez-le, allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant, à tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
En ce moment, chez Conforama, tout le monde gagne.
Avec la télé Philips 164 cm QLED à 899,99€, soit 100€ d'économie.
Et en plus, vous pouvez la payer en 20 fois sans frais.
Conforama. Jusqu'au 3 juin, offre de crédit accessoire à une vente pour un achat d'un téléviseur à partir de 699€ sur une durée de 20 mois. Sous réserve d'études et d'acceptation par le prêteur BNP Paribas Personal Finance, 542,097,902 RCS Paris. Vous disposez d'un droit de rétractation, le coût du crédit est pris en charge par Conforama.
Elle, talent prometteur, en quête d'un contrat d'apprentissage. Lui, patron de PME à la poursuite d'une jeune pépite. Ils se sont trouvés sur iscode.fr. L'école business et IT, 100% en ligne, 100% en alternance, avec des rentrées toute l'année. Entreprise, apprentis, unissez vos talents sur iscode.fr. IT égale informatique.
Sud Radio Aix-en-Provence.
95.1.
Sud Radio.
Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Eco Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 euros seulement, osez Eco Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Eco Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver.
Maman, j'ai une énorme surprise.
Raconte.
Compagnon de Moulinex fête ses 10 ans. Et pour célébrer l'événement, on peut profiter d'une offre incroyable et inédite. Un robot cuiseur multifonction Compagnon de Moulinex acheté, le deuxième te revient à 1 euro.
En effet, c'est du jamais vu. C'est l'occasion qu'on se fasse un beau cadeau. Un pour toi, un pour moi.
À nous le fait maison, le partage, les bons petits plats cuisinés en famille. Grâce au Compagnon de Moulinex.
Offre valable du 14 mai au 14 juin 2024, inclus dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions dans les magasins participants et sur moulinex.fr.
Uniquement chez Poltron et Sofa, on trouve des canapés stylés et confortables en même temps.
Et puis, uniquement ça.
Il y a plus de 90 modèles de canapés qui, seulement en ce moment, sont remisés de 30%.
Venez vite les essayer dans plus de 300 magasins.
Uniquement chez
Poltron et Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables.
Cette responsabilité des entreprises, on en parle depuis une heure avec nos invités. Aurélie Giraud est avec nous, experte en RSE, fondatrice de Mekoa. Émilie Auvray-Fourtine est avec nous, entrepreneur et fondatrice de l'Appartement Français. Il y a un site internet, je vous incite à aller le regarder. Isabelle Grenier, qui est avocate au barreau de Marseille, et Clément Arnaud, directeur de la RSE de chez Adista. Si on devait, finalement donner un message d'espoir avec vous, par exemple, sur ce que vous mettez en place. Vous êtes entrepreneuse, mais en plus, vous travaillez la pédagogie puisque vous formez ces gens à changer aussi de paradigme. Si vous deviez donner un message aujourd'hui à ceux qui nous écoutent.
Oh, grande question.
Ben oui.
J'ai peut-être juste envie de dire que moi, j'y crois. Je suis au contact du consommateur, je suis au contact de dirigeants d'entreprise tous les jours aussi, je fais du coaching. Et je les vois, eux, changer aussi. Et l'impact qu'ils ont dans leur transformation à eux personnellement, à se rattacher à leurs valeurs qui leur sont propres, et du coup à mieux se transformer pour mieux transformer leur entreprise, me fait me dire que au fur et à mesure, si on compile toutes les initiatives qui sont prises aujourd'hui, j'espère qu'on va y arriver. Je peux pas en tous les cas ne pas espérer.
Et quand on est dans une entreprise au changement, et vous dites forcément qu'il y a une progression dans l'entreprise de 13% en plus, ça veut dire qu'un salarié heureux est un salarié qui travaille mieux et plus efficacement.
Ça, sans équivoque, et qui s'investit davantage.
Et qui est plus productif.
Et qui est plus productif, et qui dans son investissement fait en sorte aussi d'apporter. C'est ça qui est assez chouette d'ailleurs dans la RSE, c'est que on met les salariés à contribution dans la RSE. Et les salariés, ils ont plein d'idées formidables sur comment justement améliorer les choses dans leurs expertises, qui apportent un vrai bénéfice pour l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose dont on s'est privé pendant pas mal d'années, et la RSE remet ça en valeur. Donc oui, ça apporte beaucoup de dynamisme.
Je voulais juste rappeler que c'était assez étonnant. Hier, on parlait emploi avec Indeed, qui nous disait hors antenne, nous, notre RSE en partie, c'est de dire, vous avez des congés payés,
oui.
Sans limite, nos limites.
Ce qui était que le chef est d'accord.
Dès que le chef est d'accord, voilà. Donc, et en fait, ils se sont rendus compte que finalement, ils prenaient pas autant que ça parce qu'ils étaient heureux dans leur entreprise, ils étaient contents de venir travailler et ils ont augmenté un tout petit peu, mais assez peu. Et c'est là qu'on se rend compte effectivement que le bien-être au travail et que la responsabilité de chacun et du groupe et de l'entreprise, Arnaud Clément, vous allez pas me dire le contraire.
Non, oui, je disais donner du sens. Ouais. Quand on donne du sens aux collaborateurs, qu'on explique que pourquoi on fait ce métier et quel impact on veut avoir sur la société. Du coup, on a des collaborateurs qui savent pourquoi ils viennent travailler le matin et qui sont fiers de l'appartenance à l'entreprise. Donc, soit parce qu'on les a embarqués dans la RSE et qu'ils sont acteurs au quotidien, soit parce qu'ils sont fiers de voir les résultats qu'on a dans l'entreprise.
Ou qu'on les a valorisés dans leur expertise, eux aussi.
Exactement.
Ouais, ça, c'est important.
Par exemple, nous, on a un logisticien, ça m'a marqué. On a gagné un trophée sur l'économie circulaire parce qu'on réemploie
2022.
Les équipements de nos clients. Et en fait, il vient recevoir le trophée et il dit au début, quand j'ai vu le sujet arriver, je me suis dit, mais merde, récupérer la poubelle de nos clients, ça m'intéresse pas. Et à la fin, quand il a vu qu'on en avait récupéré 21 000, il était fier de ce qu'il avait fait. Et c'est hyper chouette de voir qu'il y a des collaborateurs qui, au final, se disent c'est génial, je suis fier de ce que j'ai fait.
D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'il a fait un post en disant j'ai reçu un prix, on va me dire que oui, il est en plastique, il est revenu de machin, de truc. C'est assez drôle.
Et on avait d'ailleurs fait également, les vrais voix responsables, une émission sur l'économie circulaire il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Isabelle Grenier, vous êtes d'ailleurs présidente de la commission droit et entreprise du Conseil national des barreaux. Les avocats, ils sont vraiment RSE friendly, pour parler en bon français. Comment ça se passe chez vous?
Alors, chez nous, c'est
c'est comme partout, hein, je veux dire, on n'échappe pas, on est des entreprises comme les autres et on est acteurs de la société, donc il y a des bons et des mauvais points, c'est-à-dire qu'effectivement on essaye d'embarquer les cabinets d'avocats dans des démarches RSE. Effectivement, tout le monde n'a pas la même vitesse, mais voilà, il commence à y avoir.
Sur quel sujet, par exemple, comment on peut avoir une RSE dans un cabinet d'avocats?
Dans un cabinet d'avocats, alors nous, par exemple, au Conseil national des barreaux, qui est l'institution en fait qui représente les avocats, il y a un guide sur la responsabilité sociétale des cabinets d'avocats qui a été fait, qui s'articule en fait sur une démarche environnementale, effectivement, réduction du papier, détecteur de mouvement pour les éclairages, la réparation, enfin tout ce que peut faire une entreprise.
Recycler les capsules de la machine à café.
Toute une partie éthique, le pro bono. Il y a beaucoup d'avocats qui font du pro bono.
D'accord.
C'est-à-dire la défense, par exemple. Gratuitement, voilà. Oui. Il y a à Paris le bus de la solidarité. À Marseille, on a une association, des avocats qui viennent gratuitement pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc il y a des activités pro bono. Il y a aussi la qualité de vie au travail, la fidélisation des collaborateurs. Au barreau de Marseille, on a développé une crèche, parce que c'est vrai que pour les professions libérales et les jeunes mamans, c'est une problématique quand vous avez des audiences très tôt ou qui finissent très tard, surtout très tard.
Garde à vue toute la nuit, etc.
Voilà. Donc, finalement, de se sortir de ce stress de la garde des enfants. Donc, en fait, il n'y a pas une seule chose, c'est plusieurs axes. Il y a même des cabinets qui se dotent du statut d'entreprise à mission, c'est-à-dire qui se dotent d'une raison d'être, en fait, et qui se fixent des objectifs à atteindre.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, des clients potentiels, qu'ils soient consommateurs, enfin, qu'ils ne soient pas une entreprise ou une personne privée, peut déclarer qu'elle ne veut pas travailler avec un cabinet d'avocats qui n'est pas une RSE minimum.
Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, ça ferait tâche, par exemple, pour des cabinets en droit social qui sont condamnés pour harcèlement sur leurs collaborateurs, de travailler avec certains clients dans l'accompagnement pour la RSE, parce que si vous ne montrez pas vous-même l'exemple, c'est aussi compliqué d'embarquer vos clients, toutes vos parties prenantes, en fait.
On a l'impression qu'on est en train de changer de paradigme. Je me trompe ou pas ?
Ah non, on est en train de changer
Aurélie
de paradigme. Non, c'est tout à fait
profond.
Et d'ailleurs, non seulement on est en train, mais il faut qu'on change de paradigme, parce que la société telle qu'elle a été construite à l'époque où on ne se posait pas toutes ces questions n'est pas viable. Donc on est obligé de changer les paradigmes. Donc l'économie change, la politique change, les mentalités changent, les forces sont plus les mêmes, et ça se fait pas toujours suffisamment vite, mais ça se fait.
Mais ça se fait sur le temps moyen ou le temps long ?
Ça se fait sur un temps pas assez rapide.
Ça, c'est une réponse précise, encore une fois.
Justement, vous qui êtes la RSE de cette entreprise, ça a mis combien de temps le déclic ? C'est-à-dire que j'imagine qu'au début, vous avez dû batailler, vous êtes un peu seul face au restant du monde.
Oui, je dirais qu'on n'y est pas encore, en fait. Enfin, il faut rester humble. Hein. Le Graal dans une politique RSE, je pense, c'est de changer le business model de l'entreprise. Et en gros, il faut promouvoir de la sobriété pour être plus heureux demain. Ouais. Et il faut mieux partager les ressources. Et donc, y a des choses sur lesquelles on y arrive. Quand je cite cet exemple de réemploi de matériel, là, on est bon, c'est l'impact numéro un du numérique, c'est super. Mais il y a d'autres choses qu'on fait moins bien. Donc, le partage, dans l'aspect informatique, on n'est pas mauvais. On a des data centers qui mutualisent les équipements, etc. Donc, il y a des choses
qui consomment de moins en moins.
Qui consomment de moins en bien, mais de mieux en mieux. Mais par contre, on consomme de plus en plus. On consomme de plus en plus de data, de plus en plus d'écrans, etc. Donc, le pilier sobriété est très compliqué. D'embarquer les collaborateurs, d'embarquer les clients, les fournisseurs.
Mais on est sur le temps long, pour poser la même question qu'à Aurélie Giraud. On est sur le moyen terme, 10 ans, 20 ans, pour atteindre un très très bon niveau de RSE.
Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Mmh. Quand on dit que nos enfants sont peut-être ceux qui vont sauver le monde, on n'a pas le temps, que ce soit nos enfants. C'est déjà, on est dans le mur. Si on prend un peu de recul et qu'on est positif, qu'on voit le verre à moitié plein, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a plein de choses positives. Donc oui, je pense qu'on va y arriver, mais...
Faire un bilan déjà, ça nous permet de monter une marche supplémentaire. Émilie Auvray-Fourtine, quand vous regardez ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez encore à faire, vous, sur quoi vous pourriez éventuellement améliorer le quotidien de votre entreprise?
J'ai envie de dire, par rapport à l'offre...
Même si vous avez l'air d'être parfaite autour de cette table.
Loin de là, on est toujours en évolution. Et justement, c'est pour nous, c'est les jeunes qui nous montrent la voie. Nous, on adore déjà avoir des salariés très jeunes. Et puis nos clients très jeunes aussi, justement, qui nous challengent sur mais où est la seconde main made in France, évidemment.
Hein. Bien sûr. Oui.
Donc du coup, on met en place un service où nos clients peuvent nous ramener leurs vêtements made in France et on remet dans le circuit, ça leur génère un bon d'achat dans du made in France. Enfin, voilà, ils nous poussent dans nos retranchements dans tout ça, dans notre façon aussi de gouverner l'entreprise. Et en fait, enfin, autour de la table, je crois qu'on a tous plus de 40 ans. Enfin, je suis désolée, mais c'est eux maintenant qui gèrent l'entreprise.
Excusez-moi, il y a certaines qui ont 40 ans vraiment TTC avec une TVA à 33-33,
oui,
hein, comme à l'époque.
Mais pour moi, il faut les écouter. Ils sont bien plus drastiques que nous. Ils sont intransigeants sur beaucoup de sujets. Et c'est eux le futur. Et j'ai envie de les écouter, ouais.
Et comment vous êtes avec vos enfants en général ? Est-ce que vous êtes très dur ou
A priori, Isabelle Rougnier, tu vas mener à la baguette.
Ça fait mener à mes enfants qui sont plus durs.
Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez vu, une heure, ça passe très vite. Merci Aurélie Giraud, experte en RSE, fondatrice Mekoa. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est intéressant de dire ce que ça veut dire Mekoa.
Mekoa, ça veut dire mesurer, comprendre, agir.
Exactement. Émilie Auvray-Fourtine, merci beaucoup. Entrepreneur et fondatrice de l'appartement français. Isabelle merci. Grenier, merci beaucoup, avocate au barreau merci. De Paris et présidente de la commission droit et entreprise du CNB. Merci beaucoup Arnaud Clément, directeur de la RSE chez Adista. Merci beaucoup en tout cas Cyril de nous avoir monté cette belle émission. On vous retrouve demain pour les vraies voix à partir de 17h, mon cher
Philippe. On se retrouve à 17h, ma chère Cécile. À 20h02, l'essentiel de Sud Radio. À 20h, bien évidemment, le flash, ce sera Thomas Rivière ce soir. Mais tout de suite, Sud Radio à votre service.
Et on remercie notre équipe formidable qu'on embrasse. Salut, à demain.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.
Et on vous emmène en Ariège, à Orlu, avec le président d'Acrobranche qui est avec nous, Jérémy Castin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio, avec ce grand parc de loisirs aventure. On y fait quoi chez vous ?
Alors l'Acrobranche d'Orlu, c'est un parc aventure dans lequel il y a 15 parcours, avec des degrés de difficulté, partant du vert, bleu, rouge, noir, comme les pistes de ski. Comme beaucoup de parcs en France, mais ce qui va nous démarquer chez nous, ça va être le cadre dans lequel nous allons pouvoir pratiquer, comme sur le parcours Marsupilami ou Écureuil, nous allons pouvoir passer d'arbre en arbre, de jeu en jeu, et d'un coup prendre une tyrolienne et se retrouver sur un rocher. Sur un rocher sur lequel on va pouvoir faire de la Via Ferrata.
C'est quoi
la Via Ferrata, ça va être la même chose que l'acrobranche,
oui.
Sauf qu'on va être de rocher en rocher. Et tout ça, on va pouvoir le pratiquer au-dessus d'une cascade. Et dans cette cascade, on peut vous proposer aussi de faire du canyoning en plein été.
Ah, ça, c'est génial. Ça, c'est une bonne chose. Quand on parle d'acrobranche, bien sûr, on a envie de parler de sécurité. C'est un enjeu important, avec des normes strictes aussi chez vous.
Exactement. Depuis cette année, on est passé à 100% en ligne de vie continue, mm-hmm. Ce qui veut dire que notre client, il commence le parcours, il s'accroche. Il est accroché tout le long du parcours, il peut s'accrocher qu'à la fin.
Est-ce qu'on est autonome ou on est quand même, on vient en famille, hein, généralement faire de l'acrobranche. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour être auprès de nous ?
Exactement, il y a des opérateurs qui sont là pour surveiller, pour vous montrer comment ça fonctionne, faire un équipement, briefing de sécurité et secourir si besoin. Mais et après, vous êtes autonome dans les parcours.
Jérémy Castin, où est-ce qu'on vous trouve en fait ? Racontez-nous un petit peu ce bel endroit.
On nous trouve en Haute-Ariège, à 8 km d'Aix-les-Thermes. C'est un pôle d'activité qui comprend Montaneo, le muséographie sur la montagne et l'hydroélectricité, une poterie et la maison des loups, une des 5 réserves de loups en France.
Ah oui, ça veut dire qu'on est dans un écosystème qui est propice finalement aux vacances.
Exactement.
Merci beaucoup Jérémy Castin d'avoir été avec nous. Vous êtes président de Acrobranche, c'est à Orlu dans l'Ariège. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Sabrina Agresti-Roubache, une amende
oui.
pour consommation de drogue
absolument.
Sera inscrite au casier judiciaire.
Je demande à ce que ça le soit. Je ne sais pas si le gouvernement va le proposer, mais en tout cas, je suis favorable, c'est un délit. C'est pas rigolo de consommer de la drogue. Donc, c'est pas drôle.
Sud Radio, parlons vrai.
La recette de veau pour la Pentecôte, c'est très simple. On prend une belle côte de veau savoureuse, choisie par son boucher. On ajoute un week-end prolongé. On fait revenir toute la famille. On les fait mijoter dans l'herbe du jardin. vin le temps de la cuisson. Et une fois qu'ils ont doré au soleil, on peut servir la côte de veau à table, accompagnée d'une bonne tranche de rigolade. Vous allez vous régaler pour la Pentecôte. Ah, et ça marche aussi avec du tendron, du pavé et tous les délicieux morceaux de veau à retrouver sur bravoleveau.com.
Tu es un chercheur de talent passionné, un as de la relation commerciale ou un leader en devenir ? Arrête tout. Le groupe Connect recrute des commerciaux, des chargés de recrutement ou encore des responsables d'agence. Travailler avec le groupe Connect, c'est appartenir à un groupe en constante évolution, s'assurer une carrière réussie, mais aussi promouvoir la diversité et l'égalité des chances. Pour rejoindre le groupe Connect et ses 34 agences partout en France, envoie ton CV sur recrutement@connect.fr.
Avec But, on apprécie de plus en plus la cuisine allégée. Pas en matière grasse, non, non. Allégée en prix. Et ça, c'est très bon pour la santé. La santé de vos finances, j'entends.
Les journées portes ouvertes de la cuisine, c'est chez But. Profitez de remises jusqu'à 30%, de la pause offerte et de financements exceptionnels. Faites vite, ce sont les derniers jours. Conditions des offres, sélection cuisine en magasin et sur but.fr.
Leclerc, bonjour.
Oh là là, alors vous mes petits gars, vous êtes vraiment trop mignons. La peau tendre et veloutée, la mine estivale et... Oh, et vous sentez sacrément bon en plus. Je crois que je vais vous adopter.
Monsieur, vous êtes à l'antenne.
Oh, désolé, j'étais en train de choisir des abricots.
Ah, je comprends. C'est vrai qu'ils font envie nos délicieux abricots à 2,89€ le kilo, du 14 au 18 mai chez Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours.
Catégorie 1, calibre A,